Point d'eau, Saint-Julien-en-Vercors, parc naturel régional du Vercors. 12 juillet 2022, 913 mètres d'altitude, temps caniculaire, 14 heures. À l'arrivée dans ce village rue, un jeune cycliste s'asperge d'eau à la fontaine qui borde la route et organise autour d'elle une petite place. Il demande la direction de Lens, la direction d'une boulangerie. Trois motos viennent faire une pause devant le café en face de la fontaine. Le temps pour eux de laisser passer deux voitures et de se coordonner moteur allumé à l'ombre du café et de repartir une fois la décision prise. Depuis l'église, un coup de cloche clair, distinct, seul, juste le temps de son propre écho. De part et d'autre de ce coup de cloche, la fontaine s'écoule et ne s'arrête que quand un moteur vient la recouvrir. Un écoulement régulier, rythmé de la fontaine, qui par contre disparaît au moindre événement, comme si la fontaine était invisibilisée, plutôt insonorisée.
La fontaine est un octogone composé de deux robinets qui figurent une route parallèle à la départementale. L'un des robinets dirigé vers Saint-Martin-en-Vercors, l'autre vers Villard-de-Lans. 1876, dit une gravure au-dessus d'un robinet. Eau potable, dit une planchette de bois sur le côté. Un second octogone lui fournit une sorte de margelle qui la sépare du village, un seuil d'entrée. Des pots de fleurs de couleurs vives, violet et orange d'un côté, jaune et rose de l'autre, garnissent les entours des robinets. Au sol, côté Saint-Martin, un rectangle de peinture blanche avec croix interdit tout usage sur le double de sa surface, place à un éventuel camion de pompier. Cela affirme son importance et souligne ce qu'on peut ou non faire avec elle, ce qu'elle autorise ou interdit. Les véhicules font le tour de l'église de l'autre côté de la route. On ne fait pas le tour de la fontaine comme on fait le tour de l'église. La fontaine est centrale, mais maintient ses distances. Elle ne programme qu'un usage interne, se renouveler continuellement, et un usage externe, boire, se servir. Les guêpes, les abeilles l'ont bien compris et se sont donné le mot. L'eau est potable, il faut en profiter. Et les fleurs autour permettent de butiner entre deux lampées. Seuls autres acteurs de cette place au milieu du village rue, l'ombre et le petit vent qui l'accompagnent. Un portail qui s'ouvre en un son de lourd élan métal, une poule au loin, quelques rares oiseaux, comme si la sieste s'allongeait, laissant toute la place à la fontaine.
Nous quittons cette place point d'eau pour prendre un sentier vers Moulin-Marquis, une source d'eau dans une grotte. Le cours d'eau a un tracé d'une trentaine de mètres avant de se jeter en cascade à travers une falaise de près de 450 mètres pour rejoindre le Bournillon, son cirque et les gorges de la Bourne. Sur place, nous nous postons au pied de la chute d'eau avant de revenir vers la source. Les motos vrombissent dans les gorges de la Bourne, au loin, tout en bas. Ces motos, sporadiques malgré la saison, sont les seuls à signaler que l'espace derrière les arbres est une vertigineuse et immense ouverture, visuelle, sonore. Une famille, les deux parents, une fille d'environ 8 ans et un chien, donc une famille, est là, de l'autre côté de la source. La petite fille déplace des grands morceaux de bois. Les parents sont assis tranquillement. Le chien circule gaiement entre les membres de la famille.
La remontée vers la source fait éprouver, à chacun des 30 mètres ou presque, une différence d'ambiance, vers plus de frais, plus d'ombre, plus de mousse, moins d'écoulement et moins de bruit. Aussi, vers moins de morceaux de bois et plus de cairns qui sont innombrables dans la grotte. À une dizaine de mètres de la source, l'écoulement de l'eau est un peu plus heurté, comme arrêté par de fourmillants cailloux verts de mousse. Toutes les couleurs sont présentes ici en mode nuancier. Nuancier de vert et marron de la végétation, mais aussi, dès qu'on lève la tête ou change de focale, nuancier de blanc, gris, beige de la pierre, nuancier d'un ciel pur de juillet, dont le bleu ne se laisse deviner que quand on met la tête complètement à l'envers, sans compter les odeurs, mélange de vase douce et de terre humide. Nous reprenons le chemin en direction de Saint-Julien-en-Vercors et en profitons pour relire le compte-rendu établi par Jean Loup dans la revue de géographie alpine numéro 57 du congrès sur l'hydrologie karstique du Vercors qui s'est tenu à Grenoble, à l'Institut d'Olomieux, le 16 novembre 1968. Les problèmes du bilan de l'eau ont été abordés par plusieurs conférenciers, et d'abord celui des précipitations au Vercors. Le nord et l'ouest sont très arrosés, le sud les moins. Les pluies augmentent-elles avec l'altitude ? Monsieur Guyot a suggéré que l'altitude ne pouvait être qu'un facteur apparent de la pluviométrie. Cette prise de position a suscité un débat assez vif qui n'a pas abouti à une conclusion.
Sur ce chemin du retour, nous découvrons des cairns qui indiquent sans doute le village. Nous comprenons au fur et à mesure que ce n'est pas tant le village qu'ils indiquent, mais l'office du tourisme. Suite de la lecture et conclusion bilan du colloque. En somme, le Vercors est un massif troué de cavités et de galeries, comme un gigantesque emmental, pour reprendre l'expression du doyen Moret. Mais c'est un karst doté d'un faible pouvoir de rétention. Le rôle des nappes ne se manifeste que pendant les pénuries, et il est probable qu'elles sont alimentées principalement par la fonte des neiges et subsidiairement par des grosses averses, les petites pluies étant sans effet notable. Ce colloque sur le karst du Vercors n'a certes pas résolu tous les problèmes, il a apporté quelques solutions et il en a fait entrevoir d'autres.
La lecture se suspend au profit d'une observation plus minutieuse des cairns qui font office de poteaux indicateurs. Car il ne s'agit plus d'un amoncellement de pierres auxquelles les marcheurs et marcheuses pouvaient ajouter au sommet une pierre plus petite à leur passage. Ici, désormais, les cairns sont fixés d'une seule pièce en plastique recyclé. Il paraît qu'ils brillent la nuit lorsqu'on passe à proximité. C'est ce que promet du moins le petit logo d'ampoule allumée apposé sur chacun. Après l'office du tourisme, les cairns nous ramènent sur la place Point d'eau. Nous nous installons au bord, sur des sortes de plots face à face, chacun d'un côté, pour observer l'espace depuis des perspectives différentes. Au centre de ce losange d'attention, au centre de la place, on peut voir les fondations d'une fontaine. Un distributeur d'ombre et d'eau y a été installé. Il semble assez récent, neuf même. Le bitume autour a l'air frais, ou plutôt chaud, avec son noir intense et cette odeur caractéristique du bitume liquéfié.
La soif, du coup, a une odeur de soleil et de goudron. Le distributeur ressemble à une pompe à essence avec un tuyau. Pour disposer du pistolet, il faut activer un code disponible à l'office du tourisme. C'est aussi le cas pour obtenir de l'ombre pendant une certaine durée. Un temps limité, mais la possibilité de choisir sa nuance d'ombre et de quoi modifier l'ambiance lumineuse et la température sur place. Parce que les arbres poussent trop lentement, surtout avec les températures folles de ces derniers étés, parce que les problèmes de l'hydrologie karstique du Vercors n'ont pas encore tous été résolus, les municipalités s'équipent de plus en plus de ce genre de dispositif.
Clic, clic, eau ou ombre. Sur place, l'été, se servir et partir refait.